Alors, premier paragraphe, l'intelligence spirituelle des Écritures. Alors, j'ai mis l'actualité des pères de l'Église. Alors, pourquoi les pères, hein, finalement? Pourquoi cette époque plutôt qu'une autre? Eh bien, ce n'est pas simplement par penchant esthétique ou par goût historique, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont les plus actuels parmi les interprètes d'une lecture intégrale de l'écriture, voyez. Le père Lagrange, ah oui, donc je dis goût historique ou etc. C'est pas parce que quelque chose est ancien que c'est dépassé. Le père Lagrange, qui était un grand exégète, hein, vous savez, le fondateur de l'école biblique, disait dire que la tragédie grecque est un genre fini, ce n'est pas porter atteinte à son immortelle beauté. C'est vrai qu'on n'a plus Eschyle, on n'a plus etc. Mais n'empêche que les grands textes de la classique grecque, bah, sont certainement plus actuels que des productions plus récentes. Donc voilà. Voilà pourquoi les pères? Parce que les pères, finalement, sont allés au fond des choses. Et donc, du coup, ils demeurent toujours actuels. Leur œuvre est même proprement, on pourrait dire, constitutive du christianisme, de la doctrine chrétienne. Puisqu'avant, finalement, il n'y avait que l'écriture. Et comme le souligne encore une fois la commission biblique, pontificale, les pères ont tiré de l'ensemble de l'écriture les orientations de base qui ont donné forme à la tradition doctrinale de l'Église et à son enseignement spirituel. Donc, vraiment, ce sont les tuteurs, ceux qui ont engendré, en quelque sorte. Donc, ils sont incontournables. Et ils le sont d'autant plus que leur théologie n'est rien d'autre en fait qu'une profonde rumination des Écritures. C'est pas l'application de systèmes philosophiques sur la révélation, mais c'est vraiment une monducation, c'est quelque chose qui est sorti de leur contemplation de l'Écriture. La Bible est vraiment la source de leur inspiration. Et comme le dit le cardinal de Lubac, cette théologie était indispensable pour dégager le christianisme de ses langes sans le couper de ses racines, car il fallait lui donner pleine conscience de lui-même et lui assurer sa vie indépendante hors du judaïsme, tout en le préservant des interprétations grossières dont le menaçait d'autre part l'esprit païen. Donc les pères ont été à la jonction de ça, ils ont un peu comme saint Paul finalement, ils sont dans la ligne de saint Paul. Et alors, de Lubac continue, plus encore, il fallait lui forger son expression objective. Avec le Christ, tout était donné, absolument tout, mais ce fait du Christ, il fallait l'exprimer. Donc voilà, la mission des pères, c'est d'amener au Christ pour que le Christ lui-même se révèle aux âmes. Mais pour ça, il fallait dégager le Christ des approches. On pourrait dire grossières qui pouvaient en être faites, comme par exemple les Ariens. Vous voyez que les pères de grande importance comme Athanase, Hilaire de Poitiers, etc., ont lutté contre des christologies déficientes. Alors, la méthode des pères, puis on s'arrêtera peut-être là. Eh bien, comme je vous le disais, l'exégèse patristique est une méditation simultanée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, pour les pères, l'Ancien Testament, c'est essentiellement une préparation. C'est un guide pédagogique. Encore une fois, de Lubac dit: la rumination de l'Ancien Testament à la lumière du Christ a fait, grâce à la double loi de l'analogie et du contraste, à la fois mieux posséder par l'esprit le Nouveau Testament et mieux en voir la nouveauté. Elle a servi à l'exposition de la foi, mais tout d'abord à son intelligence, à la perception même de son objet. Ainsi, l'ancienne économie continuait-elle au sein de la nouvelle son rôle pédagogique de toujours. Ainsi se survivait-elle en un mode mystérieux qui constitue dans l'histoire religieuse un fait unique. Donc, où est la vérité de l'Ancien Testament aujourd'hui? Eh bien, il n'est pas dans les synagogues, il est dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on représente souvent la synagogue voilée. Parce que ils n'ont pas compris que leurs écritures étaient en fait destinées à se dépasser dans quelque chose qui est pourtant dans la continuité de leur révélation. Vous voyez, c'est ça la nouveauté. Et c'est pour ça que les pères vont refuser la position de Marcion, qui consiste à dire l'Ancien Testament, c'était bien pour amener les Juifs au christianisme, mais maintenant, nous, puisque nous ne sommes pas Juifs, on n'en a plus besoin. Eh bien, si, en fait, on en a besoin, parce que l'Ancien Testament va souligner, va expliciter des éléments du Christ par l'analogie, et en même temps montrer comment il s'en détache, il le dépasse. Voyez. Et ça, c'est tout à fait capital. Et c'est qu'en effet, le message chrétien n'a pas été donné comme un corps de doctrine, si vous voulez, un catéchisme, une série de définitions abstraites et intemporelles. Il a été donné dans une histoire. Et si vous avez lu le Coran, vous avez lu des passages du Coran, c'est ça qui est tellement déconcertant, c'est qu'on a l'impression d'être en parfait apesanteur. Il n'y a pas d'histoire. Il y a des historiettes, mais il n'y a pas d'histoire. Il y a une sorte d'apesanteur qui fait que, enfin, c'est très difficile de prendre pour nous le texte au sérieux. Donc les images bibliques ne sont pas des simples illustrations, comme on peut illustrer un concept en prenant une image, mais c'est de l'image. L'image est l'expression d'un récit, et c'est de ce récit et de ces images qu'est sortie la doctrine. Voyez, la doctrine chrétienne, elle est sortie de ça. Par exemple, la libération, elle est sortie de l'expérience de la sortie d'Égypte. Oui, et on aurait très bien pu imaginer Marx qui fait un truc sur la libération et puis qui invente une petite histoire pour mettre ça en image. Hein? Mais il ne s'agit pas de ça, c'est exactement le contraire. C'est le récit, c'est l'histoire qui va produire la doctrine. Donc ça, c'est important. Et dans l'esprit même de Jésus, l'Ancien Testament est la matrice du Nouveau. Encore une fois, de Lubac dit « Les catégories dans lesquelles Jésus s'exprime sur lui-même sont les vieilles catégories bibliques. Il les fait exploser, ou si l'on préfère, il les sublime et les unifie en les faisant converger vers lui. » Ça, c'est vraiment Blondel qui écrivait en 1900, en gros, prenait l'image je vous l'ai déjà dit, hein, du Panthéon d'Agrippa, où il y a, vous savez, tout converge vers finalement un trou. Autrement dit, tout l'Ancien Testament converge vers quelque chose qui ne peut pas se donner, mais qui est une ouverture à quelque chose d'autre. Hein, c'est comme un couvercle qui va être mis dessus. Et ce quelque chose que l'Ancien Testament, vers lequel il converge, mais qui ne peut pas se donner, eh ben, c'est le Christ, qui sera l'objet du nouveau. Alors du coup, ayant compris cela, les pères de l'Église vont pratiquer ce qu'on appelle, je le disais, l'exégèse typologique, hein, de tupos, qui veut dire la figure. Tout leur apparaît comme figure dans l'Ancien Testament, même les trucs les plus étonnants. Par exemple, Origène dira un moment que, quand on parle de légumes, eh bien, le Christ est comparable à un légume. Alors, pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, les légumes, c'était considéré comme sains. On nous dit toujours qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Hein. Bon. Donc, le légume, quand on est malade, on prend des légumes et on est soigné, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, les légumes sont des médicaments, des remèdes. Alors, quand on parle de légumes dans l'Ancien Testament, bah, c'est une image du Christ. Alors, vous voyez, il faut vraiment avoir... nous, on ne se virait pas des choses comme ça. Mais les pères sont capables de voir dans les moindres trucs des similitudes, des analogies avec le Christ. Donc ça converge vers eux. Et aussi, par contraste, par exemple, on voit bien que le Christ est roi, mais qui n'est pas la royauté de David, une royauté qui s'impose par le glaive, ou qu'il est prêtre, mais justement pas selon le sacerdoce d'Aaron, c'est-à-dire le sacerdoce sacrificiel où on utilise les animaux. Toute l'épître aux Hébreux est une démonstration de ça. Et les pères ont compris que le Nouveau Testament est une relecture de l'Ancien. Il s'est forgé exclusivement à partir des catégories et des images de l'Ancien Testament réinterprétées. Et cette réinterprétation a pris la forme d'une transposition spirituelle qui relève du procédé de l'allégorie. Alors l'allégorie, ce n'est pas une broderie, mais c'est la trame même du Nouveau Testament. Ce qui nous introduit donc à la thématique de la lettre et de l'esprit. Autrement dit, le Nouveau Testament va dégager l'esprit de la lettre qu'est l'Ancien. Ça, on trouve ça sous la plume de Saint Paul. Alors, je regarde l'heure à nouveau. Encore un tout petit peu, allez. Alors, le problème de la lettre et de l'esprit. Eh bien, on reproche souvent à l'allégorie, donc le procédé des pères, d'être un peu artificiel. Et longtemps, pourtant, la théologie entendit par allégorie les mystères du Christ et de l'Église en tant qu'ils sont figurés dans l'Écriture. Donc le sens allégorique est en fait, par excellence, le sens dogmatique enraciné dans l'histoire. Un exégète protestant contemporain a dit: pour l'exégèse allégorique, l'histoire n'est qu'un symbole derrière lequel il s'agirait de chercher autre chose. C'est l'impression qu'on a en lisant les pères. On reproche à cette exégèse de partir, dit-il encore, d'une idée toute faite pour la retrouver à tout prix dans le texte. Vous voyez? Et puis du coup, on va prendre le texte en disant: vous voyez, c'était dit dans la Bible. Eh bien, cette critique vise en fait une méthode qui ne se retrouve pas dans l'exégèse patristique. Les pères, au contraire, alors ça arrive que des gens aient une idée toute faite. Ben, regardez par exemple la lecture marxiste ou psychanalytique de l'écriture. On part d'une idée toute faite et on va essayer de la prouver par la Bible. Les pères, au contraire, ont parfaitement saisi la dimension, on pourrait dire, sacramentelle de la révélation. Comme dit le théologien Hans von Balthasar, le sens spirituel n'est jamais à chercher derrière la lettre, mais toujours dedans, de même que le Père est trouvé non pas derrière le Fils, mais en lui et à travers lui. Vous voyez? C'est la vérité resplendit au milieu et à travers son enveloppe. Autrement dit, il ne faut pas chercher la vérité derrière la Bible en se disant: on se débarrasse du texte, du sens littéral, parce que tout ça, c'est des histoires. Et puis on trouverait une vérité ésotérique, comme plein de gens nous prétendent qu'ils ont trouvé une vérité. C'était exactement ce que disait la gnose, hein, en se débarrassant de la grossièreté des Écritures, et on va chercher la vérité cachée, etc. Tandis que là, la vision des pères que reprennent les théologiens, comme Hans von Balthasar ou Henri de Lubac, c'est de dire: la vérité, elle resplendit au milieu de la gangue, en quelque sorte, de l'écriture. Et comme disait un père de l'Église, il faut décortiquer la noix, enfin pour arriver à l'amande qui est au milieu. Enfin, décortiquer l'écorce pour arriver au. Et vous voyez que c'est à l'intérieur, ça resplendit à l'intérieur, c'est pas derrière. Et ça, c'est important de voir que l'esprit et la lettre sont dans ce rapport d'illumination intérieure. L'esprit doit rayonner et il ne peut pas être trouvé en dehors de la lettre. Oui, ça c'est important. Donc la lettre n'est d'ailleurs pas tant une chose que l'expression d'une chose. que l'expression de l'esprit. La Bible est entièrement ou quasiment entièrement composée de récits. Et ces récits sont des médiations qu'utilise l'Esprit Saint pour s'exprimer. Et ce qui est porteur de sens, c'est le fait qui a inspiré la lettre, vous voyez, le récit en lui-même. Et la lettre est donc susceptible d'être interprétée pour que le sens acquiert sa plénitude. Saint Thomas d'Aquin dit que l'écrivain sacré est, entre les mains de Dieu, un instrument déficient. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait, il le sait, et c'est pour ça parfois qu'il utilise, et saint Thomas le souligne, il utilise même des images bien grossières pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas l'image qui est la vérité, mais que la vérité se trouve à l'intérieur de l'image qui est utilisée. Donc la nécessité de ne pas tomber dans le fondamentalisme. C'est ce qu'a fini par comprendre saint Augustin, vous vous souvenez, qui était rebuté par la grossièreté des histoires racontées par la Bible, par l'Ancien Testament tout au moins. Donc voilà. Donc il est donc justifié d'interpréter la lettre de l'Ancien Testament par le Nouveau et la lettre de l'un et de l'autre à la lumière du Christ par l'Église sur laquelle repose l'Esprit Saint. Alors, notons par ailleurs que le sens spirituel de l'écriture, qui se dégage ainsi de la lettre, ne se confond pas avec le sens religieux que porterait la Bible. Le premier, le sens spirituel, actualise l'écriture, alors que le second, au contraire, l'historicise. Donc, scruter les écritures, ce n'est pas étudier une série de documents du passé pour en faire l'histoire, mais c'est au contraire les scruter pour en vivre aujourd'hui. Vous voyez ? Alors, il est vrai qu'une meilleure intelligence de la lettre, c'est-à-dire du sens religieux, est au service d'une meilleure intelligence spirituelle, du texte, donc du sens spirituel. C'est sûr que si on fait des contresens dans une traduction, spirituellement, on véhiculera aussi des contresens. Donc on a intérêt quand même à faire ce travail sur la médiation, sur la lettre. C'est ce que justement ce père de l'Église appelait décortiquer l'écorce, enfin pour accéder à ce qui est à l'intérieur. Bon, mais écoutez, on va s'arrêter là, et puis on verra la suite la prochaine fois. Alors je vous rappelle que la prochaine fois, théoriquement, ça devrait être un dîner. Voilà.